Bonjour tout le monde, je suis Sabine Padeloup et vous écoutez le podcast du Bonheur des Arts. Pour rappel, Au Bonheur des Arts est une plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et du luxe. Toutes les semaines, je vous présente dans ce podcast un sujet sur l'histoire de l'art et plus particulièrement sur son rôle dans la société. Je suis partie d'une réflexion sur le confinement en questionnant notre rapport à la culture. L'idée des épisodes de ces semaines est de remonter le temps pour comprendre l'évolution historique de notre lien à l'art. Pour cela, je suis partie de l'introduction de l'ouvrage coécrit par Gilles Lipovetsky et Jean Seroy, « L'esthétisation du monde, vivre à l'âge du capitalisme artiste », publié par Gallimard en 2013. Nous avons vu la semaine dernière le premier âge, l'artialisation rituelle, et il est temps de continuer notre voyage avec le deuxième âge, l'esthétisation aristocratique. Bienvenue dans ce troisième épisode de l'Appel de l'art. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste resituer rapidement le premier âge par rapport à ce que nous allons voir maintenant. Cet âge correspond à celui des rites et va grosso modo de la préhistoire au Moyen-Âge. À cette époque, celui ou celle qui fait des objets artistiques les signe rarement. Ces productions sont essentiellement collectives dans leur façonnage et dans leur destination. Le concept d'artiste n'existe pas encore. Il s'agit plus d'un artisan et le concept de chef-d'œuvre est un concept moderne. À la fin du Moyen-Âge, on constate cependant une évolution. Le statut d'artiste apparaît et se détache progressivement de l'artisan. Plus que ça, l'artiste devient un génie. Il signe quasi systématiquement ses œuvres d'art. Car oui, désormais, ce sont des œuvres d'art que les hommes et les femmes de cette période produisent. Cet âge, nommé par Lipovetsky et Seroy l'esthétisation aristocratique, correspond à la période dite des temps modernes en histoire de l'art. Elle va du début de la Renaissance à la Révolution française de 1789. Durant cette période, de nombreux artistes ont marqué les esprits contemporains et sont désormais des figures incontournables de l'histoire de l'art mondiale. Si je vous dis artistes de la Renaissance, vous aurez tout de suite des noms précis en tête comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël ou Botticelli. Et c'est normal. L'idée n'est pas ici d'expliquer pourquoi ces artistes méritent notre attention en tant que créateurs, mais pourquoi les conditions de leur époque leur ont permis de devenir célèbres en leur temps et encore plus aujourd'hui. La Renaissance va mettre en avant ces créateurs parce que l'art devient peu à peu une production autonome, ce qui n'était pas le cas aux époques précédentes. Désormais, c'est l'art avec un grand A qui intéresse le public des puissants et qui s'avère d'ailleurs d'être de plus en plus instruit. L'objet artistique devient un objet de contemplation esthétique en plus de son rôle de transmetteur d'un discours. C'est clairement assumé dès la création de l'objet. Et on imagine l'artiste seul dans son atelier, en train de créer des œuvres qui marqueront l'histoire artistique de l'humanité. Mais ici aussi, il ne faut pas négliger le rôle de l'atelier. Les plus grands noms ont ouvert leur atelier pour former de jeunes artistes, ce qui assure un revenu non négligeable ainsi qu'une main-d'œuvre utile. Répondre aux commandes de plus en plus nombreuses ne peut se faire sans un petit coup de main. Et il arrive que les artistes fassent le plus gros du tableau et laissent les éléments les moins importants ou les plus contraignants à faire par les disciples, comme les mains ou les drapés. On continue donc de créer pour Dieu, mais il n'est plus le centre des attentions. Contrairement à l'homme avec un grand H. On parle d'ailleurs d'humanisme pour qualifier cette période. L'homme est un individu capable de réaliser de grandes choses sans être contrôlé par une inspiration divine. Il ou elle peut être un artiste extraordinaire, un génie. Et le génie des anciens temps était une sorte de conseiller invisible qui soufflait les idées à l'oreille de l'artisan quand il crée. Non, désormais, c'est l'homme le génie. Il a ça en lui, à force d'apprentissage, de travail et d'expérimentation artistique et ou scientifique. Ce n'est pas un phénomène nouveau, car les créateurs du Moyen-Âge pouvaient être des touche-à-tout. C'est juste que désormais, la notion d'individu est plus forte que la notion de collectif. L'artiste des temps modernes est en quête permanente du beau et de l'harmonie dans ses œuvres. L'esthétisation du monde est en route. Je n'ai pas encore parlé de l'autre terme important de cet âge. Pourquoi le terme d'aristocratique alors ? De la même manière que pour les artistes, si vous deviez penser à de grands noms de souverains des temps modernes, je suis sûre que vous penseriez à Louis XIV, à François Ier, à Louis XVI et à Marie-Antoinette. C'est parfaitement normal. Ce sont de grands noms de l'histoire de France, pour le pire et pour le meilleur. Le rapport à l'art de ces souverains est très intéressant, et plus complexe qu'il n'y paraît. L'art, c'est beau, mais c'est surtout très utile. À cette époque, de grands projets architecturaux voient le jour, tels que les reconstructions de demeures, l'édification de jardins et de théâtres. Tous les arts sont invoqués pour satisfaire les grands projets royaux. Je citerai rapidement quelques exemples, Fontainebleau, les châteaux de la Loire, la transformation du château du Louvre en palais royal, Versailles, la chapelle Sixtine, l'Escurial, etc. Ces chantiers réunissent de grands artistes pour répondre aux ambitions des souverains. Les artistes sont invités à créer pour le prince dans ces chantiers. Et question liberté de création, il ne faut pas vexer le commanditaire. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais il y a une marge d'initiative possible. L'idée du commanditaire n'est certainement pas de vexer un Michel-Ange, mais que tous les partis y trouvent leur compte. Et en plus des constructions, il y a la vie de cour qui devient importante. Et cela passe par la mode, l'élégance, le sens esthétique et la création d'un art national. Les puissants ont le goût de l'art. Déjà parce que, comme je vous l'indiquais plus tôt, l'art devient autonome avec l'émergence des chefs-d'œuvre réalisés par de grands artistes. On a conscience à cette époque de ce qu'il se passe, on a conscience que l'art évolue, que le concept d'artiste évolue et que ces artistes feront l'art de demain. C'est entre autres pour cela que les plus grands invitent les artistes. François Ier invite Léonard de Vinci à sa cour car c'est un moyen d'auto-affirmation sociale. Ce n'est pas forcément la présence des œuvres de l'artiste qui l'intéresse, mais l'artiste lui-même. C'est lui qui a réussi à l'inviter, pas un autre souverain. Par sa présence, l'artiste est un trésor culturel, et on le sait, on s'en vante auprès des autres cours de l'Europe. L'art est appréciable en tant que tel, mais surtout, il permet au souverain de marquer son rang et de rehausser son prestige. Le prince bénéficie ainsi de l'aura de l'artiste lorsqu'il est à sa cour et pas chez le voisin. François Ier est un roi incroyable, car il a su faire venir chez lui l'un des plus grands artistes de son époque et des temps à venir. Ici, il n'est donc pas question de logique économique, mais de logique sociale, de stratégie politique et surtout d'une mise en scène du pouvoir. On parle d'art pour les princes pour définir cet âge, car ce qui intéresse les puissants, c'est la relation de prince à artiste, c'est-à-dire d'homme à homme, et non du prince au tableau, c'est-à-dire de l'homme à l'objet. Même si les souverains de cette époque ont su créer d'importantes collections, la relation de l'homme à l'objet est le moteur de l'art à l'époque suivante. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi ce 3e épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Au Bonheur des Arts sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook, et sans oublier notre site internet bonheurdesarts.com. Prenez soin de vous, et à samedi prochain pour le 4e épisode de L'Appel de l'Art.